Chapitre 6. Le café du châtaignier était presque vide. Un rayon de soleil oblique tombait à travers une fenêtre sur des tables poussiéreuses. Il était 15 heures, l'heure solitaire. Une faible musique s'écoulait des télécrans. Winston était assis dans son coin habituel, regardant dans un verre vide. De temps en temps, il regardait un vaste visage qu'il observait depuis le mur opposé. « Big Brother vous regarde », disait la légende. Un serveur vint remplir son verre de gin de la victoire, en y versant quelques gouttes d'une autre bouteille qu'il agita, dont le bouchon était traversé par un tuyau. C'était de la saccharine aromatisée au clou de girofle, la spécialité du café. Winston écoutait le télécran. Pour l'instant, seul de la musique en sortait, mais il était possible qu'à tout moment, un bulletin spécial du ministère de la Paix soit diffusé. Les nouvelles du front africain étaient inquiétantes à l'extrême. Par intermittence, il s'inquiétait à ce sujet toute la journée. Une armée eurasienne, l'Océanie était en guerre avec l'Eurasia, l'Océanie a toujours été en guerre avec l'Eurasia, se déplaçait vers le sud à une vitesse terrifiante. Le bulletin de midi n'avait pas mentionné de zone précise, mais il était probable que déjà l'embouchure du Congo était un champ de bataille. Brazzaville et Léopoldville étaient en danger. On n'avait pas besoin de regarder une carte pour savoir ce que cela signifiait. Ce n'était pas seulement une question de perte de l'Afrique centrale. Pour la première fois, depuis toute la guerre, le territoire de l'Océanie lui-même était menacé. Une émotion violente, pas exactement de la peur, mais une sorte d'excitation indifférenciée, s'est enflammée en lui, puis s'est à nouveau éteinte. Il cessa de penser à la guerre. À cette époque, il ne pouvait pas se concentrer sur plus d'un seul sujet à la fois. Il prit son verre et le vida d'une gorgée. Comme toujours, le gin le faisait frissonner et lui procurait même de légers picotements. Ce truc était horrible. Les clous de girofle et la saccharine, eux-mêmes assez dégoûtants dans leur façon curative, ne pouvaient pas dissimuler l'odeur huileuse et plate. Et ce qui était le pire de tout, c'est que l'odeur du gin qui l'accompagnait nuit et jour était inextricablement mêlée dans son esprit à l'odeur de ses... Il ne les nommait jamais. Même dans ses pensées. Et donc autant qu'il était possible... Il ne les a jamais visualisés. C'était quelque chose dont il était à moitié conscient, planant près de son visage une odeur qui s'accrochait à ses narines. Alors que le gin remontait, il rota à travers des lèvres violettes. Il avait grossi depuis qu'il l'avait relâché et il avait repris son ancienne couleur. En vérité, il l'avait plus que repris. Ses traits s'étaient épaissis, la peau du nez et des pommettes était grossièrement rouge, même le cuir chevelu chauve était d'un rose trop profond. Un serveur, toujours sans en avoir reçu l'ordre, apporta l'échiquier et le dernier numéro du Times ouvert à la page des problèmes d'échec. Puis, voyant que le verre de Winston était vide, il apporta la bouteille de gin et la remplit. Il n'était pas nécessaire de donner des ordres. Il connaissait ses habitudes. Il y avait toujours un échiquier qui l'attendait, sa table d'angle était toujours réservée. Même lorsque l'endroit était plein, il l'avait pour lui tout seul, puisque personne ne se souciait d'être vu assis trop près de lui. Il n'a même pas pris la peine de compter ses consommations. À intervalles irréguliers, il présentait un bout de papier sale qui, selon eux, était la facture. Mais il avait l'impression qu'elles étaient toujours inférieures à ce qu'il devait réellement. Si ce fut le contraire, cela n'aurait fait aucune différence. Il avait toujours beaucoup d'argent désormais. Il avait même un travail, une sinécure, bien mieux payé que son ancien travail. La musique du télécran s'arrêta et une voix prit le relais. Winston leva la tête pour écouter. Aucun bulletin du front, cependant. Il s'agissait simplement d'une brève annonce du ministère de l'Abondance. Au cours du trimestre précédent, il est apparu que le quota du 10e plan triennal pour les lacets de chaussures avait été dépassé de 98%. Il examina le problème des échecs et plaça les pièces. La fin était délicate, impliquant une paire de cavaliers. Les blancs jouent et gagnent en deux coups. Winston regarda le portrait de Big Brother. Le blanc gagne toujours, pensait-il, avec une sorte de mysticisme nébuleux. Il en est toujours ainsi, sans exception. Aucun problème d'échec depuis le début du monde n'a jamais été gagné par les Noirs. Ne symbolisait-il pas l'éternel, le triomphe constant du bien sur le mal ? L'immense visage regardait de nouveau vers lui, plein de calme et de puissance. Le blanc gagne toujours. La voix du télécran s'arrêta et ajouta sur un ton différent et beaucoup plus grave « Vous êtes averti de vous tenir prêt pour une annonce importante à 15h30. 15h30. C'est une nouvelle de la plus haute importance. Prenez soin à ne pas la manquer. 15h30. » La musique métallique se fit à nouveau entendre. Le cœur de Winston se souleva. C'était le bulletin du front. Son instinct lui dit que c'était une mauvaise nouvelle qui arrivait. Toute la journée, avec de petites poussées d'excitation, la pensée d'une défaite fracassante en Afrique avait tenté son esprit. Il semblait en effet voir l'armée eurasienne déferler sur la frontière jamais franchie et se déployer dans le sud de l'Afrique comme une colonne de fourmis. Pourquoi n'avait-il pas été possible de les déborder d'une manière ou d'une autre ? Le schéma de la côte ouest africaine lui apparut de façon très nette. Il prit le cavalier blanc et le posa au bas de la table. C'était là le bon endroit. Tandis qu'il voyait dévaler la horde noire vers le sud, il considérait une autre force, mystérieusement rassemblée, qui s'implantait sur les arrières de la première et coupait ses communications par mer et par terre. Winston sentait que sa volonté avait donné naissance à cette autre force. Mais il fallait agir rapidement. S'il pouvait prendre le contrôle de l'ensemble de l'Afrique, s'il disposait d'aérodromes et de bases sous-marines au Cap, il couperait l'Océanie en deux. Cela pourrait signifier n'importe quoi, la défaite, l'effondrement, la redistribution du monde, la destruction du parti. Il respira profondément. Une étrange mixture de sentiments, mais ce n'était pas à proprement parler une mixture, c'était plutôt des couches successives de sentiments dont on ne pouvait dire laquelle était la plus profonde. Une étrange mixture de sentiments luttait en lui. Le spasme disparut. Il remit le cavalier blanc à sa place, mais pour le moment, il ne put pas se résoudre à étudier sérieusement le problème des échecs. Ses pensées vagabondaient à nouveau. Presque inconsciemment, il traça avec son doigt dans la poussière de la table 2 plus 2 égale 5. Ils ne peuvent pas entrer en toi, avait-elle dit, mais ils peuvent te pénétrer. Ce qui vous arrive ici, c'est pour toujours, avait dit O'Brien, c'était vrai. Il y avait des choses, vos propres actes, dont vous ne pourriez jamais vous remettre. Quelque chose a été tué dans votre poitrine, brûlé, cautérisé. Il avait vu Julia. Il lui avait même parlé. Il n'y avait aucun danger. Il savait instinctivement que le parti ne s'intéressait plus guère à ses actes. Il aurait pu s'arranger pour la rencontrer une seconde fois si l'un d'entre eux l'avait voulu. En fait, c'est par hasard qu'ils se sont rencontrés. Il était dans le parc un jour froid et mordant de mars, lorsque la terre est dure comme du fer. Toutes les plantes semblent mortes. Il n'y a nulle part de boutons, hors ceux de quelques crocus qui ont poussé plus haut que les autres plantes et sont battus par le vent. Il se hâtait, les mains gelées et les yeux larmoyants, quand il la vit, à moins de 10 mètres de lui. Il fut frappé par un changement physique mal défini. Ils se sont presque croisés, sans signe, puis il s'est retourné et l'a suivi, sans grand enthousiasme. Il savait qu'il n'y avait aucun danger. Personne ne s'intéressait à lui. Elle ne parla pas. Elle s'est éloignée en biais à travers l'herbe comme si elle essayait de se débarrasser de lui, puis sembla alors se résigner de l'avoir à ses côtés. Ils étaient au milieu d'un bouquet d'arbustes dépouillés de leurs feuilles qui ne les cachaient ni ne les protégeaient du vent. Ils se sont arrêtés. Il faisait froid. un froid glacial. Le vent sifflait à travers les rameaux et agitait les rares crocus poussiéreux. Il mit son bras autour de sa taille. Il n'y avait pas de télécran, mais il devait y avoir des microphones cachés. D'ailleurs, on pouvait les voir. Cela n'avait pas d'importance, rien n'avait d'importance. Ils auraient pu s'allonger par terre et faire cela s'ils l'avaient voulu. Winston se figea d'horreur à l'idée d'y penser. Elle ne réagit pas à l'étreinte de son bras. Elle n'a même pas essayé de se dégager. Il savait maintenant ce qui avait changé en elle. Son visage était plus sombre, et il y avait une longue cicatrice en partie cachée par les cheveux, en travers du front et des tempes. Mais ce n'était pas ça le changement. C'était que sa taille s'était épaissie, et d'une manière surprenante, s'était raidie. Il s'est souvenu comment, une fois après l'explosion d'une fusée, il l'avait aidé à traîner un cadavre sorti de quelques ruines. Il avait été étonné non seulement du poids incroyable de la chose, mais de sa rigidité et de la difficulté éprouvée à le manier. Cela donnait une impression de pierre plutôt que de chair. Son corps ressemblait à ça. Il lui est venu à l'esprit que la texture de sa peau serait très différente de ce qu'elle avait été. Il n'essaya pas de l'embrasser, et ils ne parlèrent pas. Alors qu'il marchait sur l'herbe, elle le regarda directement pour la première fois. Ce n'était qu'un regard momentané, plein de mépris et d'aversion. Il se demandait si cette antipathie venait du passé ou s'il était aussi inspiré par son visage bouffi et les larmes que le vent ne cessait de lui arracher des yeux. Ils se sont assis sur deux chaises en fer, côte à côte, mais pas trop près l'un de l'autre. Il vit qu'elle était sur le point de parler. Elle déplaça sa chaussure mal confectionnée de quelques centimètres et délibérément écrasa une brindille. Ses pieds semblaient s'être élargis, a-t-il remarqué. « Je t'ai trahi, » dit-elle d'un ton méchant. « Je t'ai trahi, » dit-il. Elle lui jeta un autre regard de dégoût. « Parfois, » dit-elle, « il te menace avec quelque chose. » Une chose à laquelle tu ne peux pas résister, à laquelle tu ne peux même pas penser. Et puis tu dis, ne me faites pas ça à moi. Faites-le à quelqu'un, sinon, faites-le pour un tel ou un tel. Et peut-être pourrais-tu faire semblant, après que ce n'était qu'une ruse et que tu l'as dit seulement pour les faire arrêter et ne le pensais pas vraiment. Mais ce n'est pas vrai. Au moment où cela se produit, tu le penses vraiment. Tu penses qu'il n'y a pas d'autre moyen de te sauver et tu es prêt à te sauver de cette manière. Tu veux que cela arrive à l'autre personne. Tu te fiches de ce qu'elle souffre. Tout ce qui t'intéresse, c'est toi-même. Tout ce qui t'intéresse, c'est toi-même, fit-il en écho. Après cela, tu ne ressens plus la même chose envers l'autre personne. Non, dit-il, tu ne ressens plus la même chose. Il n'y avait, semble-t-il, plus rien à dire. Le vent plaquait leurs fines salopettes contre leur corps. Ils furent tout de suite gênés de rester assis, là, silencieux. D'ailleurs, il faisait trop froid pour rester immobile. Elle parla d'attraper son métro et se leva pour partir. « Nous devrions nous revoir, » dit-il. « Oui, » dit-elle, « nous devrions nous revoir. » Il la suivit irrésolu sur une petite distance, à un demi-pas derrière elle. Ils n'ont plus parlé. En fait, elle n'a pas essayé de le distancer, mais elle marcha à une vitesse telle qu'il ne put la rejoindre. Il avait pris la décision de l'accompagner jusqu'à la station de métro. Mais soudain, cette façon de traîner dans le froid semblait inutile et insupportable. Il était accablé par le désir, non pas tellement de s'éloigner de Julia, mais de retourner au café du Châtaignier qui ne lui avait jamais paru si attrayant qu'à ce moment. Il eut une vision nostalgique de son coin de table, avec le journal, l'échiquier et le gin qui coule à flot. Surtout, il y ferait chaud. L'instant d'après, pas tout à fait par hasard, il se laissa séparer d'elle par un petit groupe de personnes. Il fit une timide tentative pour la rattraper, puis ralentit. tourna et repartit dans la direction opposée. Lorsqu'il fit 50 mètres, il se retourna. La rue n'était pas surpeuplée, mais déjà, il ne pouvait plus la distinguer. N'importe laquelle de la douzaine de silhouettes qui se dépêchaient pouvait être la sienne. Sans doute son corps épaissi et raidi n'était plus reconnaissable de dos. Au moment où cela se produit, avait-elle dit, on le pense. C'était sincère. Il ne s'était pas contenté de le dire. Il l'avait souhaité. Il avait souhaité qu'elle, et non lui, soit livrée au... Quelque chose changea dans la musique qui passait dans le télécran. Il y eut une note brisée et saccadée, une note jaune. Et puis... Mais peut-être n'était-ce pas réel, peut-être n'était-ce qu'un souvenir qui prenait la forme d'un son. Une voix chanta « Sous le châtaignier qui s'étale, je t'ai vendu, tu m'as vendu. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Un serveur qui passait remarqua que son verre était vide et revint avec la bouteille de gin. Il prit son verre et le renifla. La substance était de plus en plus horrible à chaque gorgée qu'il buvait, mais c'était devenu l'élément dans lequel il nageait. C'était sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est le djinn qui le faisait plonger dans la stupeur toutes les nuits et le djinn qui le ranimait tous les matins. Quand il se réveillait, rarement avant 11 heures, avec les paupières collées, la bouche enflammée, le dos brisé, il lui était impossible même de quitter la position horizontale. Si la bouteille et la tasse n'avaient pas été placées près de son lit avant la nuit. Jusqu'au milieu de l'après-midi, il restait assis avec le regard vitreux, la bouteille à portée de main, à écouter le télécran. De 15 heures à la fermeture, il était un pilier du châtaignier. Personne ne se souciait de ce qu'il faisait, aucun sifflet ne le réveillait, aucun télécran ne l'avertissait. De temps en temps, peut-être 2 fois par semaine, il se rendait à un bureau poussiéreux et oublié du ministère de la Vérité et travaillait un peu, si l'on peut appeler cela « travailler ». Il avait été nommé à un sous-comité d'une sous-commission qui était née d'un des innombrables comités qui s'occupaient des difficultés secondaires que l'on rencontrait dans la compilation de la 11e édition du dictionnaire Novlangue. Ce sous-comité s'occupait de la rédaction de ce que l'on appelait un rapport provisoire. Mais Winston n'avait jamais pu définir avec précision ce qui était décidé. Il s'agissait de savoir s'il fallait mettre des virgules à l'intérieur des parenthèses ou à l'extérieur. 4 autres personnes faisaient partie du comité. Toutes ces personnes lui ressemblaient. Il y eut des jours où ils se sont rapidement dispersés en admettant franchement qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Mais il y eut d'autres jours où ils se sont attelés à leur travail quasiment avec empressement, en donnant un spectacle formidable, établissant des procès-verbaux et rédigeant de longs mémorandums qui n'étaient jamais achevés. Des jours où la discussion à laquelle ils étaient censés apporter des arguments devenait tout à fait embrouillée et abscon, provoquait de subtils marchandages sur les définitions, les digressions infinies, les querelles, les menaces même d'en appeler à une autorité supérieure. Et puis, soudain, leur ardeur les abandonnait, et comme des fantômes qui disparaissaient au chant du coq, ils restaient assis autour de la table, à se regarder avec des yeux éteints. Le télécran est resté silencieux pendant un moment. Winston leva la tête à nouveau. Le bulletin. Mais non. Ce n'était qu'un changement de musique. Il avait la carte de l'Afrique derrière ses paupières. Le mouvement des armées était un diagramme. Une flèche noire fusait verticalement vers le sud et une flèche blanche horizontalement vers l'est, en travers de la queue du premier. Comme pour se rassurer, il leva les yeux vers le visage imperturbable du portrait. Était-il concevable que la deuxième flèche n'existe même pas ? Son intérêt s'est à nouveau manifesté. Il but une autre gorgée de gin, prit le cavalier blanc et fit une tentative. Échec et mat. Mais ce n'était évidemment pas le bon mouvement parce que, sans qu'il l'appelât, un souvenir refit surface dans son esprit. Il vit une chambre éclairée à la bougie avec un vaste lit avec une couverture blanche. Et lui-même, un garçon de 9 ou 10 ans, assis sur le sol, secouant un cornet de dés et riant avec excitation. Sa mère était assise en face de lui et riait aussi. Cela devait être environ un mois avant qu'elle ne disparaisse. Ce fut un moment de réconciliation où la faim tenace au ventre fut oubliée et l'affection qu'il avait portée à sa mère était réanimée. Il se souvenait bien de cette journée. Un jour de grêle et de pluie qui s'écoulait sur la vitre et la lumière à l'intérieur qui était trop faible pour lire. L'ennui des deux enfants dans le noir, à l'étroit dans la chambre à coucher, est devenu insupportable. Winston pleurnichait et geignait, demandait inutilement de la nourriture, s'inquiétait pour la chambre en arrachant tout et en donnant des coups de pied dans les lambris jusqu'à ce que les voisins frappent sur le mur, tandis que le plus jeune enfant gémissait par intermittence. À la fin, sa mère dit « Sois sage et je t'achèterai un jouet, un beau jouet, tu l'aimeras. » Puis elle sortit sous la pluie, dans un petit magasin général qui était encore ouvert sporadiquement à proximité, et revint avec une boîte en carton contenant un attirail d'échelles et de serpentins. Il pouvait encore se souvenir de l'odeur du carton humide. C'était du matériel misérable. Le carton était fissuré et les petits dés en bois étaient si mal coupés qu'ils ne tenaient guère sur le côté. Winston regarda boudeur ce jeu sans intérêt, mais sa mère alluma alors une bougie et ils se sont assis par terre pour jouer. Bientôt, il était follement excité et hurlait de rire à voir les puces grimper les échelles avec espoir puis glisser au bas des serpentins et revenir presque au point de départ. Ils ont joué 8 parties, en gagnant 4 chacun. Sa petite sœur, trop jeune pour comprendre le jeu, s'était assise contre un traversin, en riant parce que les autres riaient. Pendant tout un après-midi, ils ont tous été heureux ensemble, comme dans sa plus tendre enfance. Il chassa l'image de son esprit, c'était un faux souvenir. Il était parfois troublé par de faux souvenirs. Ils n'avaient pas d'importance tant qu'on les prenait pour ce qu'ils étaient. Certaines choses s'étaient produites, d'autres non. Il se retourna vers l'échiquier et ramassa le cavalier à nouveau. Presque au même moment, il le laissa tomber sur l'échiquier. Il avait sursauté comme si une épingle l'avait piqué. Un son de trompette strident avait percé l'air. C'était le bulletin. Victoire. Cela signifiait toujours la victoire quand un appel de trompette précédait la nouvelle. Une sorte de perceuse électrique a traversé le café. Même les serveurs commençaient à dresser l'oreille. L'appel de la trompette avait laissé échapper un énorme volume de bruit. Déjà une voix excitée bavardait sur le télécran. Mais au moment où elle commença, elle était presque noyée par un rugissement d'acclamations venant de l'extérieur. La nouvelle avait fait le tour des rues comme par magie. Il pouvait entendre juste assez de ce que disait le télécran pour se rendre compte que tout s'était passé comme il l'avait prévu. Une vaste armada maritime avait secrètement monté un coup soudain dans les lignes arrière de l'ennemi. La flèche blanche lancée à travers la queue de la noire, des fragments de phrases triomphantes s'imposèrent dans le vacarme. Vaste manœuvre stratégique, coordination parfaite, défaite complète, 1 demi-million de prisonniers, démoralisation complète, contrôle de l'ensemble de l'Afrique, ramener la guerre dans une distance mesurable de sa victoire finale. La plus grande victoire dans l'histoire de l'humanité. Victoire, victoire, victoire. Sous la table, les pieds de Winston faisaient des mouvements convulsifs. Il n'avait pas remué dans son siège, mais dans son esprit, il courait vite. Il était avec la foule, dehors, et s'assourdissait lui-même de hurrahs. Il leva les yeux à nouveau vers le portrait de Big Brother. Le colosse qui s'est emparé du monde. Le rocher contre lequel se sont heurtées les hordes d'Asie en vain. Il pensa comment, il y a 10 minutes, oui, seulement 10 minutes, il y avait encore des doutes dans son cœur, alors qu'il se demandait si les nouvelles du front serait une victoire ou une défaite. Ah, c'était plus qu'une armée eurasienne qui avait péri. Beaucoup de choses avaient changé en lui depuis ce premier jour au ministère de l'amour. Mais le changement final, indispensable, guérisseur, n'était jamais arrivé. Jusqu'à ce moment. La voix du télécran continuait à déverser son histoire de prisonnier, de butin et de massacre. Mais les cris à l'extérieur s'étaient un peu calmés. Les serveurs retournaient à leur travail. L'un d'eux s'est approché avec la bouteille de gin. Winston, assis dans un rêve béat, ne prêtait pas attention à ce que son verre soit rempli. Il ne courait pas, ni n'applaudissait plus depuis. Il était de retour au ministère de l'amour. Tout était pardonné. Son âme était blanche comme neige. Il se voyait au banc des prévenus. Il confessait tout. Il accusait tout le monde. Il marchait dans le couloir au carreau blanc avec la sensation de marcher au soleil et un garde armé dans son dos. La balle tant attendue entrait dans son cerveau. Il regarda l'énorme visage. Il lui fallut 40 ans pour apprendre quel genre de sourire se cachait derrière la moustache noire. Oh, cruel! Inutile malentendu! Oh, exil têtu et volontaire du saint aimant! Deux larmes sentant le djinn coulaient le long de son nez. Mais il allait bien. Tout allait bien. La lutte était terminée. Il avait remporté la victoire sur lui-même. Il aimait Big Brother.